bonjour à tous, comme un vendredi de la musique et des langues. Traduire sans trahir, rendez-vous à partir de 12h55 avec la philosophe Barbara Cassin pour son éloge de la traduction, en passant par le grec, les intraduisibles, l'homonymie. Bref, la diversité des langues est une bonne chose, à condition de savoir les traduire. À l'heure de la mondialisation, l'enjeu est de taille pour la philosophe. Coming next sur France Culture, traduction à suivre dans la deuxième partie de la Grande Table. Mais d'abord, une célébrité du jazz, improvisateur méthodique, le violoniste Didier Lockwood fête ses 60 ans sur scène avec une ribambelle de camarades de jeu, hommage au jazz et à ses sources d'inspiration. Après un dernier album sorti cet été, Apesanteur, un voyage expérimental en apesanteur, cosmique, tout comme lui, chaotique, c'est Right Now sur France Culture. Traduction, c'est maintenant, tout de suite, ou plus tard sur franceculture.fr. Bienvenue à tous.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Compositeur et violoniste de jazz, lui, le grand, est devenu géant en collaborant avec Stéphane Grappelli, Michel Petrucciani, Miles Davis et en famille. Lundi, il se produira au Théâtre des Champs-Élysées pour fêter ses 60 ans. Un hommage au jazz et à ses sources d'inspiration avec ses compagnons de route, avec les violons barbares, avec Louis Bertignac, avec Patricia Petitbon, sa compagne. Et vous m'en direz tant, Didier Lockwood, bonjour.
Bonjour.
Je sais pas d'où il vient, mais j'ai toujours adoré votre nom parce qu'il évoque la forêt de Sherwood où des bandits au grand cœur vivent cachés. Vous avez un côté Robin des Bois, vous ?
Oui, d'ailleurs, ouais. Mon surnom c'est Robin Hood.
Eh ben voilà. Mais il vient d'où ce nom, en vrai ?
Ce nom, en vrai, il vient de mon grand-père qui était anglais et qui était dessinateur en dentelle à Nottingham. Et voilà, toute la famille a migré à Calais. Puisque Calais était devenue la capitale mondiale de la dentelle.
Alors, si on se dit que l'occasion de ses 60 ans, c'est faire la fête, retrouver ses copains, mais c'est aussi peut-être un retour aux origines, à ce d'où vous venez, il n'y aura pas du tout une atmosphère de Calais ni de Grande-Bretagne sur scène lundi.
Ah ben, elle est toujours présente, vous savez. Je ne vais pas nier mes racines. Oui, donc j'ai un côté un peu... Il y avait même de la famille un peu écossaise, donc voilà. J'avais même peut-être prévu de venir en kit, mais je sais... J'ai pas décidé encore.
Maître de l'improvisation au violon, Didier Lockwood, vous êtes pareil dans la vie, vous improvisez beaucoup.
Mais j'ai le regret de vous informer que vous aussi vous improvisez. Et là, vous êtes en train d'improviser. Donc ce terme improvisation est toujours un petit côté péjoratif, mais vous savez, la vie elle-même s'improvise. Donc je vois pas pourquoi on ferait différemment.
Ça veut dire quoi, un terme péjoratif ? Derrière improvisation, on pense toujours à ce grand n'importe quoi.
Oui, l'improvisation, c'est une mise en chaos. Donc, on improvise quand on n'a pas prévu les choses. Donc, quand on est un mauvais élève, on ne prépare pas. Donc, on fait comme on peut. Donc, en général, c'est pas toujours couronné de succès, mais l'improvisation est un apprentissage, c'est une science, vous voyez. Et si on la traitait comme une science, je pense que on aurait moins de problèmes déjà politiquement dans notre pays.
Qui a décidé que c'était une science ?
C'est une science parce que c'est un apprentissage, donc tout ce qui s'apprend est une science.
L'improvisation qui semble par nature spontanée, sauvage, vous l'avez pourtant domestiquée, c'est vrai, Didier Lockwood, en développant une pédagogie de l'improvisation, la fameuse méthode cordes et âmes. Ça consiste en quoi ?
Eh ben, ça consiste à accorder sa vision de la vie à son âme. Voilà, donc ça consiste à montrer qu'on peut jouer et rentrer dans la musique d'une manière différente, c'est-à-dire plus intuitive. Et surtout, l'apprentissage de l'improvisation, ça permet aux musiciens de se rendre autonomes très rapidement. C'est pour ça que apprendre la musique aux enfants par l'oralité, par exemple, en premier lieu, les fait rentrer en contact directement avec l'objet qu'est la musique, qui est non pas un objet de lecture ou d'écriture, mais un objet de ressenti.
Si je veux savoir, Didier Lockwood, ce qu'il y a dans votre âme, il faut que je vous demande en gros d'improviser.
Oui, puisque je pense que lorsqu'on improvise, on n'a pas le temps de mentir.
Je vais quand même vous poser une question. Quelle est la question qui vous façonne et qui vous guide, à l'instar de Eric, le héros de votre roman « Question d'âme » ? Qu'est-ce que vous poursuivez ?
Ah bah, merci de l'avoir lu, parce que vous êtes, c'était vous, donc. écoutez, c'était simplement ce livre, c'est simplement une réflexion sur le fait que on donne toujours des réponses, mais on oublie de se poser les questions. ce livre, c'est un itinéraire du questionnement. C'est-à-dire, voilà, on part par des questions très basiques et puis qui nous emmènent vers des questionnement beaucoup plus complexe, et je dirais qu'à une bonne question en général entraîne une bonne réponse.
Et donc les questions que vous vous posez à partir des réponses que vous avez trouvées, 60 ans de vie, et quand ben, même,
c'est-à-dire
on en a trouvé quelques-unes,
que la vie aujourd'hui c'est un lieu, un espace d'apprentissage, c'est un espace de découverte, c'est un espace de transmission. Et j'ai l'impression, comme il existe une musique à chaque âge, voilà, il existe une sagesse à chaque âge, et il faut pas essayer de brûler les étapes, et simplement de les vivre à fond, mais toujours éviter de rester sur des principes, sur des enseignements figés, toujours se remettre en question, mais jamais d'une manière douloureuse. Toujours dans l'espoir d'en savoir plus, et de naître plus éclairé, enfin, de mourir plus éclairé que nous sommes nés.
Et on en revient à ce joli mot de transmission que vous avez chevillé au corps, Didier Lockwood, et c'est pas pour rien, vous êtes fils d'instituteur. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, à transmettre à ces musiciens en herbe, ceux que vous rencontrez dans le Centre des Musiques, Didier Lockwood, que vous avez fondé, créé à Damary-les-Lys, en région parisienne? Cette méthode, on l'évoquait, celle de l'improvisation, mais au-delà de ça, quelle valeur, quel sens de la créativité?
Vous savez, dans ce livre, la question d'âme, ma recherche, ma quête, en fait, c'est qu'est-ce que la vie nous demande? Donc la nature est là, et on est là pour la lire, pour essayer de la comprendre, la lire. C'est pas la nature qui doit s'adapter à l'homme, mais je pense que c'est l'homme qui doit s'adapter à... Tout existe dans la nature. Les plus belles œuvres, les plus belles musiques existent déjà dans la nature. Il suffit simplement de l'apprendre à la lire pour pouvoir vivre et avec elle. Et c'est elle qui va nous guider dans notre cheminement. Et je dois dire que l'apprentissage de la musique est symboliquement, pour moi, une quête extraordinaire de ce phénomène de vie. Puisque un musicien donne vie à des vibrations, on dit que tout est vibration aujourd'hui, hein, dans la physique quantique. C'est pour ça que cet après-midi, par exemple, je vais aller donner une conférence sur l'art et les sciences et les connexions neurosynaptiques, parce que sur le principe d'improvisation, parce que je trouve que on se connaît pas assez, et que le fait de savoir que lorsqu'on pense à des choses, on fait interagir des choses en nous qui vont nous procurer des émotions. Et je pense que la musique est la plus belle, mais je dirais les disciplines artistiques, l'éducation artistique, c'est la base de l'apprentissage du sens de l'homme. L'homme naît à travers ses sens, en voyant, en apprenant à entendre, à toucher, à sentir. Donc la musique est là, c'est l'art du toucher aussi, puisque on dit que cette mémoire digitale du pianiste, par exemple, prend une place extrêmement importante dans sa faculté de pouvoir aussi imaginer, de pouvoir interpréter, de pouvoir justement s'éduquer et éduquer les autres émotionnellement.
On devrait mettre un instrument entre les mains de tous les enfants aujourd'hui, dès l'âge de 4 ans, 5 ans.
Oui, c'est pour ça que c'était l'objet de mon rapport que j'ai remis tout récemment à Manuel Valls.
Parce que vous avez présidé le Haut Conseil, oui, de l'éducation artistique et culturelle à partir de 2005, et oui, vous avez effectivement remis un rapport l'été dernier. Pourquoi on est si mauvais avec cette éducation artistique en France? Mais ça ne fait pas partie de notre culture?
Mais on a une culture judéo-chrétienne, Et on ne peut rien apprendre sans plaisir. Et le plaisir est quelque chose de très mal vécu dans notre civilisation. C'est dommage, parce que on ne peut apprendre, on ne peut vivre les choses que par le plaisir que va nous procurer la vie à travers la souffrance de la vie. Il faut savoir que la vie est un effort. La première chose qu'on fait, c'est de crier, c'est de devoir respirer. Donc on est soumis à cette pesanteur, à cette gravité qui nous écrase sur terre. Et la musique, c'est un moyen justement de rentrer dans cette apesanteur et de flotter. Voilà, je dis toujours, la musique, ça va vous permettre de flotter dans votre esprit, mais de flotter aussi dans l'espace.
France Culture avec le jazzman, violoniste, compositeur Didier Lockwood jusqu'à midi et demi. Faites-nous vibrer, faites-nous flotter, vous voulez bien jouer quelque chose pour nous?
Ah d'accord, oui, j'y vais, alors oui. Bah, aucun problème, écoutez.
Et vous revenez après à cette table,
oui, d'accord.
Alors, qui est grande. Là, il faut quand même que j'explique, Didier Lockwood, que vous êtes en train de prendre non pas un violon, mais un violectra, c'est-à-dire un instrument très particulier. Il est vert, il n'a pas de cage thoracique, il est percé au centre et il a 6 cordes au lieu de 4. Vous nous parlerez de cet instrument juste après qu'on vous ait écouté. De votre âme, Didier Lockwood, je diagnostique un grand chaos intérieur quand même. Merci beaucoup, merci à vous.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Reprenez votre souffle, Didier Lecoud, ce vieux Lectra qui se joue autant avec les pieds, finalement, qu'avec les mains ou son archet.
Ah oui, c'est un instrument de composition, en fait, puisque bon, c'est un instrument à six cordes qui couvre la tessiture du violon alto et du violoncelle, pratiquement. Donc, permet d'atteindre des tessitures assez, une amplitude de tessiture assez large. Et surtout, j'ai cet appareil à mes pieds qui me permet de m'auto-enregistrer. Donc je fabrique la basse, je fabrique la rythmique en tapant avec ma bague sur le bois du violon et je dois dire que c'est vraiment à chaque fois un voyage assez. Et vous parliez de chaos, oui, parce que je crois que avant de pouvoir organiser les choses, il faut pouvoir partir d'un chaos et faire émerger les choses. C'est aussi le sujet de ce livre.
Sur scène, lundi, il y aura aussi un hommage avec Django Reinhardt et votre rencontre avec lui, c'est faite par l'intermédiaire de votre mentor, le jazzman français Stéphane Grappelli, qui a composé, entre autres, le thème du film Les Valseuses, Once in a Blue Moon. Comment vous l'avez rencontré? C'était un hasard?
Stéphane Grappelli? Oh, non, c'était un hasard. En fait, j'étais dans le...
C'est lui qui vous a trouvé.
Moi, j'étais dans le big band de... Oh là là, de... Enfin, d'un grand musicien, là, ça me... J'ai un petit trou de mémoire, mais Stéphane Grappelli était invité de ce big band. C'était au festival de Nancy 78 pardon. Et après le concert, Stéphane Grappelli, qui m'avait entendu jouer, prendre un solo, m'a demandé si je serais d'accord pour le suivre dans ses tournées. Et son prochain concert, c'était à Royal Albert Hall de Londres. Donc moi, j'avais quoi, tout juste 20 ans, hein, 20, peut-être 21 ans. Et voilà, je me suis retrouvé donc 15 jours après à Royal Albert Hall de Londres avec c'était une soirée anniversaire pour Stéphane Grappelli avec des musiciens incroyables, des grandes vedettes du jazz et voilà, ça a commencé comme ça et puis voilà, je lui dois tout ça à Stéphane parce que Stéphane c'était...
Qu'est-ce qu'il a vu en vous, lui?
Je crois qu'il a vu, le joueur. Il a vu le joueur. Stéphane Grappelli était un joueur. C'est-à-dire que dès qu'il prenait le violon en main, il avait plus de rhumatisme, il avait plus rien. Et je me souviens, avec Michel Petrucciani, on était à Nice et il était tout près de la scène, assis sur son fauteuil roulant. Et tout d'un coup, on l'a invité à monter sur scène. Il s'est levé en furie. Oui, vous savez, comme Assurance Touriste dans le. Et il est parti jouer comme ça, avec une élégance extraordinaire, comme à son habitude. Il jouait du violon comme il buvait son thé.
Once in a Blue Moon, Blue Moon par Stéphane Grappelli. De l'album Live at the Blue Note, le célèbre club de jazz new-yorkais Didier Lecoud. Un autre projet, Les Violons du Monde, est né de votre rencontre avec le violoniste classique Sir Yehudi Menuhin. Ce sera un documentaire. Pour Yehudi Menuhin, la sonorité d'un instrument reflète la couleur d'une langue. Dans les différents coins du monde, ça veut dire que les violons ne parlent pas pareil, Didier Lecoud?
Bien sûr, comme nous ne parlons pas de la même manière à travers le monde, chacun a son accent, et c'est ce que Stéphane Grappelli, d'ailleurs, défendait toujours. Il disait, il y a un accent par musicien.
Et alors l'accent du violon français?
Eh ben, là, il est particulier parce que il est d'essence classique, hein, au départ, et puis il se mélange avec ce jazz de Django Reinhardt et ce tandem Django-Stéphane Grappelli. C'est une école française et qu'on devrait défendre plus, puisque c'est la raison pour laquelle je viens de monter un orchestre de chambre qui sera d'ailleurs représenté dans cette soirée. Il viendra jouer dans cette soirée, créé même dans cette, pour cette soirée du 12 décembre.
Donc l'accent français en violon est différent de l'accent tzigane, différent de l'accent italien.
Bien sûr, vous savez, ce sont les cultures musicales intrinsèques à chaque pays, à chaque géographie, qui vont déterminer aussi cet accent. On joue pas du violon jazz, par exemple, aux États-Unis, comme on joue du violon jazz en France. Non, aux États-Unis, on est issu plus des musiques bluegrass et voilà.
Donc c'est différent. Vous serez d'accord, je pense, avec l'invité de notre deuxième partie, Barbara Cassin, pour qui il n'y a pas un langage universel, mais des langues, cette universalité un peu mise à mal. Là encore, on peut dire peut-être que le violon, à lui tout seul, incarne des différences et qu'il ne peut peut-être pas sauver le monde. Écoutez Yehudi Menuhin.
Je n'ai jamais eu de rêve impossible. Enfin, je savais du début que musicien ne peut pas changer le monde. C'est pas ça qui, et ceux qui ont essayé ont tous échoué. Même notre cher Jésus, qui, s'il voyait le monde aujourd'hui, même si on excluait tout le monde excepté les chrétiens, il serait horrifié. Mais je n'ai jamais eu d'illusion. Oui, quand j'étais très très jeune, je pensais que si je jouais la charcante de Bach dans la chapelle Sistine, automatiquement, ça devrait résoudre tous les problèmes du monde. Évidemment, je n'ai pas pu maintenir cette illusion très longtemps.
Et ce métissage, vous l'appliquez, Didier Loukoud, sur scène, concert de violons croisés, de la Chine au Balkan, de la Mongolie au Moyen-Orient, 5 artistes d'horizons divers, les violons barbares, et Guo Gan, qui vient de Chine. Ça, c'est un autre voyage que vous ferez plus tard, et notamment en mars prochain. Quel voyage refaites-vous là? Ce sera quoi, la route de la soie?
Non, c'est faire parler 5 accents différents. Et les faire parler sur des musiques différentes du monde. Donc, avec les violons barbares, on joue du tango argentin, on joue de la musique asiatique, on joue de la musique zigane, voilà, et on passe partout. Et le héros de Guo Gan, maître Guo Gan, eh bien voilà, passe à travers aussi lui toutes ses voix. Et c'est très touchant parce que on voit l'effort que chacun fait pour sortir de son précaré, de sa culture, de ses principes, de ses habitudes, pour aller flirter avec celle des autres.
Le violon, un langage, une musique du monde. Le violon est aussi un objet de désir comparable au corps des femmes, un objet dont le violoniste serait capable d'arracher des gémissements évoquant la jouissance et l'orgasme, Didier Loukoud.
C'est moi qui ai dit ça.
J'ai vu ça en tout cas en présentation de ce fameux projet Les violons du monde que vous allez réaliser, ce documentaire. C'est troublant. Vous avez, vous, cette relation charnelle avec votre instrument?
Écoutez, je pense que la musique ne peut pas exister, je prends tous les grands compositeurs classiques, tout ce que vous voulez, sans une dimension sensuelle d'abord et sexuelle.
Et là, vous allez laisser un grand blanc.
Mais oui, je suis désolé, mais c'est comme ça.
Non, mais expliquez-vous.
Je pense que déjà, pour revenir à ce que la vie nous demande de régénérer l'espèce et de continuer à procréer. Donc c'est une mission, parce que nous, un peu dans notre manque d'humilité, les hommes, on pense qu'on réinvente la vie, on est peut-être même les inventeurs de la vie, on serait même peut-être les inventeurs de tout ce qui se passe autour de nous. Non, encore une fois, je trouve qu'il faut aller chercher au fond de nous ce qui nous guide. Et ce qui nous guide aussi, c'est notre instinct animal, l'animalité. Et je veux dire, la beauté, vous parlez, moi quand je parle de sexe, je parle de beauté. Vous voyez, je parle d'amour, je parle de beauté, je parle de quand je parle de musique, je parle aussi de beauté, d'amour, de sexe. C'est pour moi, c'est on est dans la même chose. On est dans un musicien en fait est là pour sortir de lui ce qu'il a à l'intérieur, ce qui mijote à l'intérieur de lui, et que souvent les principes moraux qui sont présents dans notre vie, dans notre société, nous empêchent de libérer, ce qui occasionne des frustrations extrêmement pénibles et qui vont jusqu'à des actes qui sont
même pas
répréhensibles. Je veux dire, on sort vraiment de ce que l'homme et l'humain devrait mettre en œuvre tout le temps, c'est-à-dire la solidarité, c'est-à-dire le regard sur l'autre, et puis partager, s'enrichir du point de vue de l'autre, vu que chacun sur Terre est différent et amène sa pierre à l'édifice.
Vous avez d'ailleurs amené votre violon, qui dans un étui où c'est sacrément le bordel, j'espère que dans votre tête c'est quand même un peu mieux rangé
aujourd'hui. C'est le
chaos. C'est le chaos aussi, oui, hein, oui. C'est ce que vous avez exprimé tout à l'heure. On va se quitter avec quelques notes de votre dernier album, Apesanteur. L'extrait, le morceau qu'on va entendre, c'est Infinitude. Et vous vouliez juste nous dire un mot d'un trio que vous êtes en train de former ou reformer,
oui,
avec Patricia Petitbon.
Parce que Patricia chante dans cet album, elle improvise. Et on est en train de former un nouveau trio avec Dimitri Naïditch, ce grand pianiste ukrainien qui joue du jazz à merveille et du classique aussi incroyablement. Et Patricia qui va chanter aussi des standards de jazz. Et je peux vous dire qu'elle va faire quelque chose d'assez incroyable parce que personnellement, j'ai pas encore entendu une artiste lyrique être capable de chanter du jazz comme elle le chante.
Du jazz à l'électro, Didier Lockwood, il y a comme un flottement dans le studio. On est là avec cet album OVNI, Apesanteur, qui est sorti, hein, que vous avez fait paraître cet été. Un grand merci à vous.
Ben, je vous en prie, merci à vous. Cet album est une totale improvisation. Hein, voilà. C'est qu'une improvisation. Rien n'a été décidé avant.
Expérimental, improvisé, on en écoute un extrait. Antoine Mercier vient de nous rejoindre dans ce studio. Un grand merci à Bernard Laniel pour sa prise de son. Dans moins d'une minute, le journal.